Bonsoir tout le monde. Heureux de vous accueillir donc ce soir pour l'avant-dernière des conférences publiques organisées par l'ISM pour cette année 2014-2015 sur le thème « L'islam radical britannique est-il l'islam radical de France ?» dans le cadre donc des conférences publiques sur islam de France, islam d'Europe. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux intervenants. D'une part, Dominique Thomas, qui prendra la parole premier, si c'est bien ça, qui est consultant et expert donc sur les questions djihadistes, qui a travaillé sur les groupes djihadistes dans la péninsule arabe et sur le champ des djihadistes en Angleterre et à Londres. Aujourd'hui, il continue de travailler sur l'évolution de l'islam politique radical et il a publié un certain nombre d'articles et d'ouvrages et d'articles de presse, en particulier dans la presse francophone et arabophone. Le second intervenant est Bernard Godard, qui est ancien chargé de mission au bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur et qui était plus spécialement chargé du suivi des relations avec l'islam, qui est diplômé de l'EPHE et de l'INALCO, et qui a publié un certain nombre d'ouvrages lui aussi, en particulier très récemment « La question musulmane en France » chez Fayard et un certain nombre d'autres ouvrages. Donc sans plus attendre, comme on a un petit peu de retard, je laisse la parole à Dominique Thomas et je remercie Dominique Thomas et Bernard Godard d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi.
Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais essayer d'être... respecter les horaires pour laisser le plus possible à la discussion. Donc en regardant et en préparant cette intervention, c'est vrai que tout d'abord, l'objectif là qui va être fait dans les minutes qui viennent, c'est surtout de présenter d'abord un tableau et un peu les rapports de force de ce que, pour ma part, l'islam radical, ou en tout cas le militantisme radical islamique en Grande-Bretagne, se conçoit. Et puis dans un deuxième temps, je ferai quelques apartés avec la comparaison avec la France, mais pas tant que ça, en fait. Et ça sera surtout mon collègue Bernard Godard qui va vous présenter quelque chose de plus structuré sur la France. Parce que effectivement, quand on pose le problème comme il est décrit dans le titre, est-ce que l'islam radical britannique est-il l'islam radical de France ? J'ai envie de répondre tout de suite à la question. On est dans un autre monde, dans un autre rapport. Évidemment que non, il n'est pas du tout, il n'est pas du tout le même. Et je dirais qu'il n'est presque pas comparable, parce qu'il faut l'historiciser, il faut le remettre dans son contexte. Et c'est ça qui change toute la donne, la différence. Et puis ensuite, il faut définir ce que c'est que l'islam radical. Parce qu'il faut partir d'abord de l'islam et ensuite aller vers l'islam, la forme politique de l'islam, qui est l'islamisme, et vers la forme radicale de l'islamisme, qui est l'action violente ou le militantisme conservateur, ultra-conservateur, avec un modèle de société qui est considéré comme conservateur ou ultra-conservateur, et qui va, par exemple, utiliser la violence comme moyen politique, qu'on appelle le djihadisme ou autre. Et ces notions-là, dans la Grande-Bretagne, que ce soit dans le modèle britannique ou en France, n'est pas perçu et n'est pas décrit de la même façon. Le curseur n'est pas le même. Si vous êtes familier avec les courants de l'islamisme, par exemple, vous devrez savoir que les frères musulmans... qui est un courant politique qui officiellement a renoncé à l'utilisation de la violence n'est pas considéré comme parfaitement légitime et intégré dans le paysage britannique de l'islam, alors que on sait bien que ce débat en France suscite justement débat et qu'il suscite quelquefois la polémique et que officiellement il n'y a pas d'organisation qui se réclame directement des frères musulmans, même si l'UOIF en est une émanation peut-être lointaine. Mais je veux dire qu'il n'y a pas d'antenne des frères musulmans comme il y en a en Grande-Bretagne, par exemple. Alors l'islam britannique, il faut comprendre quand même au départ, si on prend l'islam en tant que tel, c'est-à-dire la l'organisation de la communauté ou des communautés musulmanes en Grande-Bretagne, il est structuré, beaucoup plus structuré qu'il n'est en France, et il est surtout beaucoup plus influent, alors que vous avez, par exemple, sur le plan quantitatif, les populations musulmanes qui sont moins nombreuses que les populations musulmanes, même si les recensements sont complexes à faire. Et cet islam structuré et influent, il s'est, je dirais, construit tout au long des années 80-90. Donc il a vraiment une antériorité par rapport à la France qui est beaucoup plus récente dans la construction. Il est structuré d'abord par communauté. Et ça, c'est un phénomène qui est complètement aussi différent de le phénomène français où le communautarisme n'est pas un terme qui, si vous voulez, est employé avec une aisance académique, scientifique et autres. On parle de communauté en Grande-Bretagne. C'est pas un terme qui est tabou. Il y a les communautés indo-pakistanaises, des communautés indonésiennes, turques, moyen-orientales. Tout ça se conçoit dans un paysage, dans le melting pot musulman british, hein, des British Muslims, comme on l'appelle en Grande-Bretagne. Première chose, il est ensuite structuré en termes de courants politiques. Des courants politico, je dirais philosophiques, politico-religieux, qui, eux, sont totalement assumés aussi et qui tirent de leur légitimité directe le fait que c'est essentiellement un islam asiatique, en tout cas du continent asiatique, qui est venu en Grande-Bretagne et qui s'est structuré. Et on va retrouver ces courants qui ont été les courants fondateurs de l'islam asiatique, de l'islamisme politique, en Grande-Bretagne, dans une présence totalement assumée. Et je citerai juste la présence, par exemple, des mouvements de type Barelvi, par exemple, pour l'islam du Bangladesh, les Jamaati, qui sont proches des sortes d'émanations fréristes des pakistanaises, les Deobandi, qui sont aussi un islam indo-pakistanais qui est proche d'une conception conservatrice, entre guillemets un peu salafiste. Qui est une école qui est née en Inde et qui a influencé beaucoup l'islam de la région indo-pakistanaise. Le mouvement du Tablir, qui a, dans la région du Yorkshire, du côté de Leeds, à Dewsbury, sa base centrale de toute l'Europe, hein, qui est vraiment le QG des Tablir, du mouvement Tablir, est en Grande-Bretagne. Le Tablir, c'est un mouvement un peu de missionnaires conservateurs qui s'est mis en place et le centre est en Grande-Bretagne. Vous avez également la version pakistanaise de la mouvance salafiste qu'on appelle les Ahl al-Hadith, les gens des Hadiths, qui sont aussi présentes en Grande-Bretagne. Donc tout ça est totalement, je dirais, assumé et construit l'islam britannique tout au long des années. Troisième type et troisième pôle de construction, c'est le contexte politique différent entre la France et la Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni a toujours été une terre, je dirais, une terre d'asile, hein, une terre de liberté de ton, de parole, pour des oppositions à des régimes qui sont considérés comme autoritaires ou qui sont des régimes qui ont chassé les oppositions qui leur étaient les oppositions dans leur pays respectif. Hein, le symbole de le principe du freedom of speech, qui est quand même très très important, et pendant plusieurs décennies, ont été accueillis sur le territoire britannique un certain nombre d'oppositions islamistes aux pays du Moyen-Orient, et pas uniquement du Moyen-Orient, qui se sont installés en Grande-Bretagne et qui ont structuré cet islam britannique. Vous avez les frères musulmans, je l'ai répété, hein, les frères musulmans, d'une manière générale, ont toujours eu des bureaux à Londres. Ça a d'ailleurs, dans les dernières années, posé un certain nombre de problèmes aux autorités britanniques par rapport à leurs relations qu'ils avaient avec l'Égypte post-Morsi, après le coup d'État du général Sisi. Vous avez également, et également leurs relations avec certains pays du Golfe, vous avez également la présence d'une opposition islamiste, je dirais, plus classique, qui est présente depuis de longues dates en Grande-Bretagne des oppositions syriennes, les mouvements syriens opposés au régime de Bachar el-Assad, les frères musulmans syriens et d'autres groupes islamistes syriens avaient des bureaux, soit des bureaux plus ou moins officiels ou des bureaux, je dirais, officieux dans la capitale britannique. L'opposition algérienne s'est très rapidement installée en Grande-Bretagne. Les mouvements du FIS avaient des bureaux en Angleterre. Les mouvements ensuite de la mouvance djihadiste algérienne ont eu une présence très rapidement en Grande-Bretagne, que ça soit le GIA, le GSPC ou autre. On sait qu'il y avait des prédicateurs qui étaient proches de cette mouvance. La mouvance tunisienne, Rachid Ranouchi, qui est aujourd'hui le leader fondateur du mouvement Ennahda, a été pendant des années en exil à Londres et n'est revenu qu'après la Révolution. Vous avez également l'opposition libyenne au régime de Kadhafi, qui était le GICL, le groupe islamique des combattants libyens, qui était présent en Grande-Bretagne. Et puis vous avez également un certain nombre d'acteurs de l'opposition égyptienne, qui ne sont pas frères musulmans et qui se réclamaient des mouvements islamistes de type Gamara Islamia, et qui avaient fui l'Égypte de Moubarak et qui avaient, en statut de réfugiés politiques, continuaient à, rentrant dans l'ère du numérique et dans l'ère de la communication online, structurer une communication à travers Internet, et qui se sont installés en Grande-Bretagne. Je rajoute à cette présence des mouvements un peu plus transversaux, du type le mouvement du Hizb Tahrir, par exemple, qui est un mouvement transversal islamiste pour la restauration du califat, qui a une présence en Grande-Bretagne qui date des années fin des années 80, début des années 90, donc une longue tradition de liberté d'action, de liberté de réunion, de distribution de tracts, y compris sur le territoire britannique. Et puis vous avez la présence, et ça c'est très important, qui vont structurer cet islam qui, là maintenant je parle de focalise sur l'islam radical, militantisme, islamisme, je dirais plus violent, voire des prêches plus conservateurs, la présence de prédicateurs charismatiques qui sont venus également comme opposants, fuyant souvent les oppositions, parfois ayant même combattu dans des fronts djihadistes bosniaques, afghans, voire tchétchènes, et qui se sont réinstallés en Grande-Bretagne. Et c'est là que, dans les années 90, sont apparus ces prédicateurs emblématiques, charismatiques, que l'on a tous vus un jour dans les télévisions et dans les médias, prêcher dans des mosquées britanniques, comme l'Égyptien Abu Hamza, le Jordanien d'origine palestinienne Abu Qatada, le Syrien Omar Bakri Mohammad. Et ces personnes-là vont être, je dirais, les précurseurs et les fondateurs d'un islam radical de type djihadiste en Grande-Bretagne. Ils vont être les artisans de ce groupe. Et c'est la conjonction de tous ces facteurs, si vous voulez, de tous ces modes, ce mode de structuration communautaire, politique, militantisme, dans ce contexte, qui va donner naissance à des mouvements transversaux, à des expériences qui vont naître dans les années 2000 et qui vont être finalement des mouvements qui vont être ensuite très structurants pour comprendre l'évolution même du djihadisme, y compris le djihadisme aujourd'hui que l'on voit actuellement en pleine mutation et en pleine restructuration après les printemps arabes, que l'on voit naître dans les pays arabes, y compris même que l'on voit sous des appellations du type, y compris État islamique, mais en particulier Ansar el-Sharia, par exemple. La première organisation qui est créée par le cheikh Abu Hamza, qui est un Égyptien, s'appelle Supporters of Sharia, qui est en fait le terme de Ansar al-Sharia en arabe. Supporters of Sharia, c'est un mouvement qui est créé dans 92-93 et qui est un mouvement qui est le résultat d'une longue réflexion qui est de privilégier la prédication sur le territoire sur lequel on est, au-delà de la violence, au-delà du militantisme armé, puisqu'il n'y a pas de vocation à devenir un groupe armé sur le territoire britannique. On combat les oppositions aux régimes arabes et on crée un mouvement de prédication en Angleterre qui va focaliser son attention sur la communauté musulmane britannique et qui va prêcher pour informer, pour sensibiliser la communauté à ce qui se passe dans le monde musulman, parlant d'oppression, parlant de tyrannie, des régimes autoritaires. Et Supporters of Sharia, c'est un peu, si vous voulez, la version que l'on va retrouver ensuite dans le modèle qui va se développer des Ansar al-Sharia, qu'on va retrouver en Syrie, qu'on va retrouver d'abord en Tunisie, en Libye, en Syrie un peu moins, parce que la Syrie a tout de suite basculé vers un conflit armé, Mais dans les conflits où les révolutions se sont passées finalement relativement, je dirais, assez rapidement, et où le régime autoritaire n'a pas résisté, où le degré de résilience n'a pas été suffisamment fort, est apparu des mouvances de type Ansar el-Sharia. Et on voit très bien l'analogie qui peut être faite avec l'expérience qui est née en Grande-Bretagne de cette époque, parce que non seulement une analogie historique, mais en plus une analogie en termes de personnes, parce que les personnes qui ont été dans les années 90 en Grande-Bretagne les artisans de ces mouvements, on va les retrouver en Tunisie, en Égypte ou quelquefois dans d'autres pays après les révolutions. Ce sont les mêmes. Vous prenez l'exemple de Abou Ayad, par exemple, qui est le cheikh qui a fondé Ansar al-Sharia en Tunisie. C'est un élève d'Abou Qatada en Grande-Bretagne, dans les années 90, dans le Londonistan. Il a été emprisonné ensuite en Tunisie, libéré après la révolution. Mais il a, pendant quelques années, été l'élève d'un prédicateur en Grande-Bretagne. La plupart des islamistes libyens qui sont aujourd'hui en Libye sont passés par la case Grande-Bretagne. Et la mouvance égyptienne également, avant la période de Sissi, qui était sous la période de Morsi, il y a des éléments qui étaient en Grande-Bretagne et qui venaient ensuite, qui sont revenus sur le territoire égyptien et qui ont créé aussi ces structures de Ansar el-Sharia qui sont nées finalement de cette expérience britannique. Vous avez également l'apparition dans cette hybridation et dans ce phénomène d'émulation de prédicateurs de courant, un deuxième phénomène qui est à noter, qui lui n'est pas un phénomène où on va construire un mouvement pour aller influencer un territoire extérieur, mais un mouvement qui va être totalement endogène, qui va se structurer comme une forme de radicalisme à la mode britannique, où la problématique n'est plus le problème des régimes autoritaires du monde arabe, c'est le problème de la communauté britannique, la communauté musulmane britannique, qu'il faut réformer, et le problème de la relation à adopter par rapport à l'État britannique. Et là, on a un véritable mouvement endogène qui prend souche et qui va s'appeler dans un premier temps le mouvement qui va être créé par ce prédicateur syrien qui s'appelle Omar Bakri Mohammad, qui est le mouvement des Al-Muhajiroun. Hein, le terme Muhajiroun signifie migrants et migrants. Et donc, on est tout à fait dans cette logique de les migrants qui sont venus sur un territoire non musulman et qui vont, depuis la Grande-Bretagne, faire de la prédication pour réorienter, réorganiser la communauté et essayer de lui donner un certain nombre de clés de compréhension et comment se définir par rapport à un État qui n'est pas musulman. Et c'est toute la problématique des Muhajiroun qui va être formulée. Muhajiroun va ensuite, du fait de la législation britannique, qui va être aussi naturellement de plus en plus adapté à la menace que ça peut avoir en termes de menace pour la sécurité du territoire. La mouvance va se renommer Al-Sunna et va terminer sur une transformation totalement british, puisqu'elle s'appelle aujourd'hui Sharia for Britain, hein, qui est donc la charia pour la Grande-Bretagne, et qui va donner et s'aimer dans l'Europe des micro-groupuscules qui vont arriver notamment dans l'espace belge, puisqu'il y a un mouvement qui s'appelle Sharia for Belgium. Et on a je dirais qu'on a une sociologie qui n'est plus des militants qui viennent, réfugiés politiques, qui sont d'abord des gens qui pensent dans leur politique, dans leur pays d'origine. On a des gens qui pensent plus et qui sont déjà des « born in Britain », souvent, hein, des gens qui sont nés en Grande-Bretagne, qui sont des « British Muslims », qui sont quelquefois des convertis qui sont issus de la communauté afro-caribéenne, mais qui sont aussi issus de la communauté white anglo-saxonne. Il y a énormément de white anglo-saxons qui ont milité dans ces organisations et qui sont devenus des leaders de ces organisations, pas uniquement des gens qui sont donc originaires du Pakistan ou de ce qu'on appelle des Jamaïcains, par exemple. Hein. Ce n'est pas que des Jamaïcains convertis à l'islam. Et on a même et tout ce paysage de born in Britain, de convertis, on a des phénomènes d'analogie que l'on peut faire avec notamment les expériences très rapides qu'il y a eu en France du type Forsan al-Aïza, par exemple, hein, qui était un groupuscule de quelques dizaines de personnes qui vont tenter l'expérience, mais qui n'ont pas naturellement le même paysage politique et le même contexte pour pouvoir mettre en place ce type de groupe et qui vont se heurter très rapidement à la législation française qui empêche totalement la structuration de ce groupe. Forza nell'Aisa, les cavaliers de la fierté. Les cavaliers de la fierté. Qui va être groupusculaire, hein, c'est quelques dizaines, mais qui vont être dans l'agitprop, qui sont dans l'activisme du type de ce que l'on a vu avec Sharia for Britain. Le mouvement est interdit aujourd'hui. Bernard vous en parlera, peut-être développera ce phénomène en France. Et je dirais que, comme par hasard, aujourd'hui, ce que l'on voit dans la sociologie des Britanniques qui sont, par exemple, qui partent vers le conflit syrien, puisqu'il y a naturellement la Syrie ne fait pas exception par rapport à notre cas français, elle est aussi une zone d'appel pour les musulmans britanniques radicalisés. Il y a environ, les chiffres varient entre 500 ou 600 combattants britanniques qui combattent dans le paysage syro-irakien. Et vous avez une très très forte majorité de combattants britanniques qui viennent de ce milieu endogène. Et c'est pas forcément un hasard. Ce sont des milieux qui viennent pas forcément du milieu d'Ansar al-Sharia type version tradition Abu Hamza. Ce sont des gens qui étaient souvent des militants de Muhajiroun, des militants d'Al-Sunna wal-Jama'a, des militants de ces groupes-là qui ont muté. Et notamment, on voit régulièrement dans les actes de décès de ces combattants britanniques qui sont morts en Syrie ou en Irak, d'anciens jeunes qui ont aujourd'hui entre 25 et 30 ans, qui étaient entre 15, 18 ans, 19 ans, de jeunes militants de Omar Bakri Mohammed et qui sont aujourd'hui en Syrie. Hein, et ça, c'est très, très frappant de voir que ce radicalisme endogène, il est présent. Et je dirais que pour terminer sur cet islam structurant, structuré et d'influence britannique, et pour le différencier de l'islam, de cet islam radical, donc, hein, structurant et d'influence, on le voit par exemple sur les paysages aujourd'hui et les fronts djihadistes qui sont nombreux dans le monde musulman et dans le Moyen-Orient. Les Britanniques ont beaucoup joué un rôle influent du fait de cette émulation de ces différents courants. La Syrie, la Libye, la Somalie, le Pakistan, l'Afghanistan, le Yémen, la Tchétchénie et la Bosnie sont tous des territoires où des phénomènes djihadistes ont eu lieu, où des phénomènes djihadistes sont encore présents, où des phénomènes djihadistes se développent en permanence et où la présence de musulmans britanniques est observable et dont certains jouent un rôle important dans la structuration de ces groupes. Soit parce que ce sont des gens qui ont une nationalité, ce sont des gens syriens ou libyens qui ont la double nationalité donc qui jouent ce rôle, soit parce que ce sont des Britanniques d'origine, mais qui ont été, je dirais, nourris à un discours radical qui est d'une autre teneur et d'une autre force et d'une autre, dans le narratif, d'une autre forme que ce qui a été produit dans le paysage français. Et c'est pour cette raison que je dirais que la structuration des militants, la sociologie, la morphologie des militants, le profil des militants britanniques est souvent, quelquefois, assez différent de ce que l'on peut voir dans le paysage français, par exemple. Dans le profil des paysages des Français qui sont en Syrie, par exemple. C'est pas un hasard si, même si ça se fait maintenant de plus en plus, on voit des Français apparaître dans des vidéos de l'État islamique ou des vidéos de Jabhat al-Nusra. Très rapidement, que ce soit les mouvements des Chebabs, le mouvement naturellement a fortiori ISIS, le mouvement État islamique, mais également Al-Qaïda au Yémen ou Al-Qaïda a fortiori Al-Qaïda au Yémen, puisqu'il y avait eu le phénomène Aoulaki aussi, au Yémen, qui était très important, qui est passé par la Grande-Bretagne également. Mais en Syrie, vous avez tous vu ces vidéos, enfin, en tout cas, vous avez tous entendu parler de ces vidéos, même en Libye, où on a ce fameux présentateur de la vidéo qui s'appelle Jihadi John, qui parle avec un accent anglais, qui est d'origine koweïtienne. Et c'est un enfant du Londonistan, ce Jihadi John, hein, qui a milité aussi à travers ses structures, à travers ses... je dirais que le fait que l'anglais soit aussi une langue de communication Il n'est pas, je dirais, anormal de voir un nombre important de gens qui sont anglophones, parfaitement anglophones, être naturellement utilisés par ces groupes armés pour leur communication internationale. La revue d'Abik est publiée en anglais, en premier lieu. C'est la revue de l'État islamique. Al-Qaïda en péninsule arabique a créé depuis les années 2005-2006 une revue en anglais qui s'appelle Inspire et qui ont besoin de gens qui sont parfaitement anglophones dans leurs effectifs. Donc c'est très important parce que c'est une autre dimension, si vous voulez, que par rapport à un francophone qui, même s'il pouvait être francophone et anglophone et arabophone, ce qui n'est pas déjà toujours le cas, est beaucoup moins utile pour la communication, même s'il l'est aujourd'hui dans ce monde mondialisé, beaucoup moins utile qu'un anglophone qui va avoir dans la communication un pouvoir de force, d'impact autrement plus important, même si aujourd'hui, il ne faut pas mésestimer, sous-estimer l'importance que peuvent avoir les francophones au sein de l'État islamique, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie réflexion internationaliste de cette mouvance, plus d'ailleurs qu'au sein d'Al-Qaïda, pour développer un message multilingue. Et là, les Français ont un vrai rôle, puisque déjà, les traductions d'Abik sont faites en anglais, en français. On voit des messages de francophones parfaitement faire des messages au nom de l'État islamique. Et ça, c'est aussi important. Après, sur le profil, je dirais que cet islam radical djihadiste endogène britannique, on a des analogies à faire avec la France. Non pas sur les cas que l'on a pu médiatiser, dont certains sont finalement assez marginaux, mais peut-être sur des cas, je dirais, plus structurés, comme par exemple des gens comme Salim Ben Ralem, par exemple, comme les frères Belhoussine dans le 93, comme la cellule du 19e, qui ont végété autour de l'imam Ben Yetou, mais on retrouve autour de cette cellule des personnages comme Boubacar al-Hakim, le franco-tunisien, par exemple, qui aujourd'hui est important dans la nébuleuse djihadiste de l'EI, avec ses liens avec Ansar el-Sharia, en tout cas ses liens non compliqués avec Ansar el-Sharia, même si lui s'attribue les meurtres de Soukri Belaïd et de Brahimi. Néanmoins, Ansar el-Sharia n'était pas forcément l'organisation qui a commandité ces meurtres. Le fait de la présence de gens qui sont issus de cette cellule montre que on peut aussi en France avoir eu des cas de l'islam radical djihadiste extrêmement structuré, avec des personnages qui ont un vrai CV, je dirais, en termes de djihadisme et en termes de militantisme, et pas uniquement des profils à la, je dirais, de l'ex-délinquant passé par la prison, radicalisé extrêmement rapidement et qui ensuite passe à l'action. Ça n'est pas que ça. On a aussi des cas beaucoup plus historiques, qui ont un militantisme plus fort, que l'on retrouve, je dirais, davantage dans le radicalisme et dans le djihadisme britannique, pour les raisons que j'ai énumérées auparavant, c'est-à-dire dans l'histoire du contexte et dans l'historicisation qu'il fallait faire, à mon avis, pour bien dresser comme portrait que la Grande-Bretagne et la France, c'est deux modèles de société, deux modèles d'approche déjà du phénomène de l'islam, déjà, d'une manière générale, deux modèles déjà de structuration et de la place qu'ont les communautés dans la société, et ensuite deux phénomènes différents dans l'histoire de la structuration de ces musulmans, où le politique a été au cœur, je dirais, de la structuration, et le politico-religieux même, et l'islamisme a été au cœur de la structuration de cet islam britannique, alors que la France... les choses se sont faites beaucoup plus en pointillé et avec un environnement et un contexte politique qui ne pouvait pas permettre, mais aussi avec une sociologie des musulmans qui ne pouvait pas coïncider avec ce développement que l'on a connu avec la Grande-Bretagne. Donc on est, je pense, pour terminer sur la question, dans deux sphères totalement différentes, dans deux mondes qui sont complètement différents, qui sont, à mon avis, pas comparables. Dans l'histoire de la structuration et dans ce que la Grande-Bretagne a donné à l'islamisme, même y compris l'islamisme actuel, et ce que la France a apporté, je dis la France, c'est-à-dire les musulmans qui se réclament de l'islamisme, ont apporté à l'islamisme international et forcément, a fortiori, au djihadisme contemporain, à mon avis. Voilà, je laisse la parole à mon collègue qui va compléter avec la...
Merci Dominique. Donc je vais poursuivre. Alors c'est bien parce que on s'est pas vraiment concerté avant de parler chacun, mais je trouve que l'approche est tout à fait intéressante parce que je suis tout à fait d'accord sur la question de la différenciation, bien sûr, mais qu'en plus effectivement c'est une bonne approche de parler de le contexte, si vous voulez, général de l'islam en Angleterre. Hein, et non pas simplement de la radicalité, mais aussi de la contexte dans lequel s'est développé l'islam proprement dit. Et c'est vrai que la différenciation, elle est claire, elle est nette. Et par exemple, l'ambiance du Londonistan des années 90, auquel les jeunes Français attirés par le djihad dont ils se sont nourris, a son importance, mais ça se passe à Londres. Effectivement, je me rappelle de l'époque où les jeunes partaient et allaient pour aller sur ce qu'on appelait la mosquée des Trois Plumes, et puis c'était ça, et la mosquée de Abu Hamza, le capitaine Crochet, enfin il y avait des personnages comme ça, du Londonistan, de chefs charismatiques, qui étaient connus dans toute l'Europe. Mais effectivement, le contexte français, il est un contexte différent. D'abord, complètement différent par la conception de l'islam, de la place de l'islam, qui est effectivement un contexte beaucoup plus contraint pour l'exercice du culte, tout simplement, et pour effectivement l'expression, y compris idéologique, de par exemple des réfugiés, puisque nous avons une part non négligeable de réfugiés politiques du monde musulman qui étaient des islamistes. Et alors c'est tout à fait intéressant parce que le cas que tu évoquais de Rachid Ranouchi, effectivement, il s'est installé en Angleterre parce qu'il n'a pas pu s'installer en France. Donc vous voyez qu'il y avait quand même un certain nombre de contraintes, alors qu'en Angleterre, effectivement, il n'y a pas eu cette espèce de surveillance, d'autosurveillance que les frères musulmans ont exercé sur eux-mêmes, hein, alors qui est très importante. Je vous livre simplement les propos que m'ont rapporté les quatre membres du Conseil européen, trois des quatre membres du Conseil européen de la fatwa et de la recherche qui est à Dublin, qui est un peu l'organisme, si vous voulez, des frères musulmans européens, dont le président est Kardawi, donc est toujours sous le haut contrôle des oulémas étrangers, quand même, venus du monde musulman. Mais il y a quatre Français hein, sur une quinzaine de membres. Et ces quatre Français, il y en a un qui m'a dit qu'il n'est pas parmi les plus libéraux, hein, pour vous dire, m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, mais les Français, à chaque fois, on a un point de vue qui est tout à fait original par rapport à nos frères d'autres pays. Alors ça, c'est très intéressant. Et il dit, par exemple, par un certain nombre de choses, par rapport à la laïcité, par rapport au statut de la femme, par rapport à la situation, l'évocation de la situation d'Israël. Bon, il y a des thèmes dont ils disent à leurs collègues d'autres pays, suisses ou irlandais ou allemands, non, en fait, non, vous savez, en France, on ne peut pas, sur telle fatwa, on ne peut pas avoir ce type de position. Par exemple, on ne peut pas dire en France avoir un soutien trop marqué ou du moins trop agressif par rapport au Hamas palestinien. Bon, il faut qu'on soit prudent. Donc vous voyez que c'est une position, c'est tout à fait intéressant. Donc cette auto-limitation, cette auto-contrôle, il a été porté dès les années 80 dans la mouvance des frères musulmans par ceux qui ont créé l'UOIF. Effectivement, assez rapidement, ils étaient, comme dans le reste du monde musulman, y compris en Angleterre, c'était des structures d'étudiants qui étaient venus pour étudier, mais qui étaient aussi là pour préparer, si vous voulez, le terrain à éventuellement d'être une base arrière pour les militants pour préparer le terrain à la révolution dans le monde musulman. Et assez rapidement en France, l'UOIF a été contrôlé par des éléments, je reviens de l'UOIF, qui étaient moins centrés sur les combats dans le monde musulman. C'est ce qu'on appelle le groupe de Bordeaux qui a pris le pouvoir dès les années 93-94, c'est-à-dire des gens qui se pensaient en France comme étant d'abord dans l'intégration des enfants, etc. Et donc, du coup, alors, c'est vrai qu'au niveau, des observateurs, en particulier la presse, les services de renseignement, il y avait quand même une certaine prévention qui existe toujours en disant, mais enfin, vous n'allez pas nous faire croire quand même que ces gens-là sont en France pour, effectivement, chercher à s'intégrer, etc. Oui et non. Oui, Et non, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont toujours gardé, si vous voulez, en filigrane, la nécessité du soutien au combat qui sont les leurs dans le monde musulman, mais c'est devenu parfaitement secondaire. Même si vous allez à la fête du Bourget chaque année, vous voyez effectivement des dispositifs assez importants sur tout ce qui est l'activité humanitaire vis-à-vis d'un certain nombre de causes du monde musulman, et puis un certain nombre de groupes. Mais d'année en année, c'est de plus en plus visible depuis 4 ou 5 ans, les acteurs, si vous voulez, qui venaient du monde, des opposants koweïtiens, algériens, etc., sont de moins en moins présents dans les manifestations officielles que dans les frères musulmans français, entre guillemets, en particulier au moment de la prise de pouvoir par Sisi. C'est tout à fait intéressant. On a tous été assez impressionnés par le fait qu'ils ne soient pas trop engagés, si vous voulez, dans ce soutien. Et m'ont-ils dit, nous avons d'autres soucis qui sont ceux de préserver notre propre sécurité en Europe et en particulier en France, puisqu'effectivement, rappelez-vous, c'était les apocalypses 2010-2012 qui étaient la suspicion qui était portée sur toute organisation par rapport à l'identité nationale, etc. Donc on était dans un climat un peu particulier. Et donc ils le vivaient dans un sens différent. C'est-à-dire qu'ils ont dit, bon, on va aller dans le sens victimaire, etc., complotiste. Non, on ne veut pas aller dans ce sens-là. On va aller dans le sens, effectivement, de l'intégration. Donc, il y a eu toujours ce mot d'ordre de l'intégration qui était un ordre prioritaire, qui n'était absolument pas dans le contexte anglais, qu'on n'a jamais connu dans le contexte anglais. Et ça, c'est très, très important. C'est très important. Seulement, voilà, les frères musulmans qui ont dominé, on va dire, le champ idéologique parmi les jeunes musulmans dans les années 90 et une partie, on va dire, le début des années 2000, finalement, aujourd'hui, ils ont perdu beaucoup d'impact. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'effectivement, tous les efforts qu'ils ont déployés pour s'institutionnaliser, pour rentrer dans l'institutionnalisation, ça n'a pas donné beaucoup de résultats, à tel point qu'ils ont, même s'ils ont été intégrés dans l'organe officiel de culte, enfin, quand je dis officiel, institutionnel, qui a été très, très, très protégé, borduré par l'État français, le Conseil français du culte musulman, bon, ils en sont sortis. Donc, du coup, c'est une peur panique. Alors ça, c'est par rapport au pouvoir politique aussi. C'est le cas du mouvement Tablir, tu en as parlé, mais le mouvement Tablir aussi. Le mouvement Tablir n'a aucune raison de rentrer dans l'islam institutionnel en France. C'est une structure complètement indépendante. C'est une structure qui se pense comme plutôt fondamentaliste, hein. Bon, mais quiétiste, vraiment quiétiste. Mais le responsable, je lui ai posé la question en 2003, mais pourquoi vous rentrez au Conseil français du culte musulman? Qu'est-ce qui vous pousse à y rentrer? Il m'a dit, parce que les frères musulmans sont venus me voir, ils m'ont dit que si j'étais pas dans le Conseil français du culte musulman, j'allais avoir des problèmes avec les autorités. Donc vous voyez que c'est quand même ce côté-là, même s'il n'est pas voulu forcément par les autorités publiques, il n'est pas forcément véhiculé par les autorités publiques, faut pas croire, mais il y a effectivement une ambiance qui fait qu'il faut rentrer dans un certain cadre. Donc je dis, bon, si vous voulez, tout ce petit monde évolue à sa manière, mais il y a un autre univers. Alors je parle pas de Tariq Ramadan qui est aussi... Alors c'est très intéressant parce que Tariq Ramadan, c'est quelqu'un qui a un énorme impact en France, encore maintenant. C'est la personnalité la plus importante dans la plupart, écoutée par les jeunes musulmans de tout milieu et de toutes origines, hein, dans le sens idéologique. Et c'est assez curieux. Il a aussi un certain impact en Italie, par exemple. Bon, mais il est parti à Londres. Il est parti à Londres, zéro. Zéro, c'est-à-dire que Tariq Ramadan n'a aucune influence en Angleterre. Alors c'est tout à fait intéressant parce que c'est point complémentaire de ce que tu racontais, c'est qu'en fait, bon, c'est quelqu'un pour une organisation anglaise, quelqu'un qui effectivement, bon, il le faisait savoir qu'il avait été appelé par Tony Blair, surtout après de partir de 2003, 2004, 2005 après les attentats. Donc effectivement, chose que les dirigeants britanniques, les dirigeants musulmans britanniques, n'ont pas éprouvé le besoin de faire. C'est-à-dire qu'au moment où l'Angleterre a mis en place un système preventing extremists together, c'est-à-dire de mettre en place un système pour faire face au terrorisme, bon, la plupart des organisations Elles ont été sollicitées, le Muslim Council for Britain, qui était effectivement une structure qui réunissait un certain nombre d'organismes, mais ils allaient sur la pointe des pieds, et assez rapidement, ils ont été assez critiques sur la manière dont on voulait les instrumentaliser pour effectivement essayer de combattre le terrorisme, soyons clairs. Alors que lui, Tariq Ramadan, a tout de suite fait partie des personnalités qui ont siégé du côté du gouvernement dans le Preventing Extremists Together. Et c'est vrai que, moi, je me rappelle, l'Angleterre, elle a beaucoup beaucoup de jeunes anglais disaient, mais bon, ce gars-là, c'est un homme du gouvernement, etc. Donc, vous voyez, c'est très curieux. C'est une figure qui, en France, passait pour effectivement quelqu'un de subversif, etc., et qui avait été largement surmédiatisée en 2005. Alors, effectivement, 1995, c'est la date où il est interdit de territoire par le ministre de l'Intérieur Charles Pasqua. Et en fait, ça lui a donné un élan terrible, rien que cette interdiction. Vous voyez qu'en France, on est dans un jeu, effectivement, qui est complètement différent. Et ça marque profondément le paysage islamique français dans ce sens-là. Et si vous voulez, ça, c'est la partie, qui s'est institutionnalisé à partir de 2003, mais qui ne l'était peut-être pas dans les années 80-90, mais en fait, c'était un univers qui était en voie d'institutionnalisation, ce qu'on appelle le mouvement frériste, etc., qui est très puissant aujourd'hui encore. Et puis, il y a un autre mouvement parallèle, on en a parlé, qui était le mouvement un peu le salafisme, on va dire les choses clairement, salafisme. Alors souvent, on dit le salafisme, il a été amené en France par la mouvance algérienne ou directement par l'Arabie saoudite. Ben, oui et non. Les premiers salafistes, ce sont des convertis français. Ce sont des convertis français qui s'appellent Youssef Leclerc, qui s'appellent Ayoub Le Sur, Abdallah Milsan. Ce sont des gens qui sont effectivement des convertis, qui effectivement ont été soutenus, financés pour certains par l'Arabie saoudite. D'autres, comme Abdallah Milsan, qui est médecin en Alsace, qui apparaissait proche comme l'UIF, mais qui, en fait, aujourd'hui, il a une barbe dont la longueur laisse supposer qu'il est beaucoup plus proche que du salafisme, que des frères musulmans. Mais c'est vrai que c'est des gens qui ont, effectivement... Et à l'époque, on ne percevait pas ça comme un discours... on le percevait comme radical, comme un discours radical, dans le sens... Alors, simplement une petite parenthèse, parce que « radical », au sens où les pouvoirs publics, l'Union européenne le dit, c'est « passage à la violence ». Donc, du coup, c'est vrai que ça, c'est l'acception du terme. Donc, quand on dit lutte contre le radicalisme islamique, et ça, c'est une formule qui est reçue, qui était la formule officielle au niveau européen, même Amérique, même au niveau des États-Unis, une formule, l'islam, qui passe à la violence, au degré, donc idéologisé, on le formulera comme on voudrait, mais en tout cas, qui passe à la violence. Parce que c'est intéressant, parce que tel qu'on disait, tel que moi je suis d'accord avec la formule que disait mon collègue aussi, c'est que le radicalisme, effectivement, il n'y a pas il y a une continuité entre une pensée, entre effectivement une certaine manière de formuler les choses, et puis le passage à la violence. Parce qu'effectivement, on ne peut pas penser les choses en disant... Ça, alors c'est vrai qu'il y a des débats sur la question. On va dire, ceux qui passent à la violence, c'est parce qu'ils ont été sous emprise mentale, etc. Ils ne sont pas responsables. Non, on ne peut pas dire qu'il y a une discontinuité entre le passage à la violence et le fait, à un moment donné, d'avoir été sensibilisé par une certaine radicalité de la pensée musulmane. Je vais revenir, en particulier, ce mouvement salafiste. Alors, c'est intéressant parce que les Allemands, eux, ils disent salafiste. Ils ne disent pas djihadiste, ils disent pas... quand ils parlent d'un mouvement radical d'origine musulmane, ils disent pas idéologie islamiste ou islamo-fasciste ou je ne sais pas quelle autre formule, ils disent salafiste. Pour eux, c'est... c'est un choix. C'est un choix qui peut être... on peut dire ce qu'on voudra, mais c'est une... Moi, je préfère parler d'idéologie salafiste, parce que le salafisme, il y a des contenus vraiment précis, et après, il y a quelque chose qui est idéologiquement une idéologie salafisante, on va dire, de manière plus large, parce que ça emprunte au salafisme, mais après, tel que ça peut se manifester, on va le voir, ça peut être assez différent. Mais si vous voulez, en France, a existé en... Alors, il y a une autre chose qui est importante, un autre élément, autrement par rapport à ce rapport à la société civile en général, des musulmans, y compris la réaction de l'État. Il y a aussi, ce qui est important, c'est le radicalisme. Alors, nous, on dit le terrorisme qui s'est manifesté avant tous les autres pays européens en France. Et ça joue un rôle déterminant. C'est-à-dire que, dans le fond, la première manifestation qu'on a eue d'attentats terroristes, donc, était accomplie par des gens qui étaient reliés à une idéologie djihadiste ou radicale islamiste, entre guillemets, ça c'est quand même 85-86. Hein, c'est quand même... il faut remonter loin. C'est-à-dire, c'est des attentats de la rue de Rennes, etc. Alors, effectivement, la motivation, elle est voulue par... elle est clairement identifiée. Hein. C'est le commanditaire, c'est l'Iran. Le donneur d'ouvrage, c'est le Hezbollah libanais. Mais ceux qui ont accompli les attentats, ce sont des gens, des ouvriers migrés, essentiellement le chef qui était un Tunisien, un vendeur de fleurs du quartier Couronne, et puis quelques éléments qui ont été... mais qui étaient des bricolos, comme on dit, c'est-à-dire qui n'étaient pas des gens importants dans le dispositif, mais on était en présence de gens qui venaient d'univers... Est-ce qu'on peut dire radicalisé? Il y avait certains qui venaient d'un mouvement qu'à l'époque, il n'existe plus, qui était le mouvement benbéliste algérien. Il y avait des origines qui n'étaient pas identifiées clairement comme des mouvements violents. Hein. C'est-à-dire un mouvement qui mettait systématiquement en œuvre des moyens violents pour parvenir au pouvoir dans le pays d'origine. Donc vous voyez que c'était encore... alors les années et ce qui va intervenir, ce qui finalement va être déterminant, et à mon avis qui joue un rôle encore central aujourd'hui en France, hein, c'est l'Algérie. C'est-à-dire que c'est l'apport algérien, et ça va jouer un rôle tout à fait particulier, qui n'est pas comparable à l'influence idéologique que peuvent avoir les mouvements de l'Asie, par exemple, par rapport au mouvement qu'on connaît en Angleterre. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un contexte qui est complètement différent, et le cas algérien est tout à fait exemplaire, puisque finalement, le 89, la montée du FIS, ensuite l'interdiction du FIS 92, la série du processus électoral en Algérie, et ensuite la création de l'armée islamique du salut, bon, et après, contre l'armée islamique du salut, la création des groupements islamiques armés, dont on ne sait pas aujourd'hui encore quelle est la proportion qui est manipulé par le pouvoir algérien et la proportion de groupes qui sont dissidents par rapport à l'armée islamique du salut, qui elle-même est l'émanation normalement du FIS, du Front islamique du salut. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais en tout cas, ce contexte-là va jouer un rôle déterminant. Il va jouer un rôle déterminant. Et c'est vrai que la plupart des gens qui vont s'engager vont le faire à partir de l'affaire algérienne. Et on sent, et encore une fois, on va avoir des attentats. Et les attentats, c'est les attentats de 95-96. Alors c'est intéressant. Qui sont quoi? Qui sont une manifestation de radicalité par rapport à une politique française particulière. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'Angleterre n'a pas encore été touchée à l'époque par des effets directs que la politique anglaise, ça on en reparlera, l'Espagne et l'Angleterre, elle va subir de plein fouet leur politique au sein, si vous voulez, de la coalition avec les États-Unis. Mais en France, on subit, et ça c'est le deuxième fait marquant, après les attentats de 96, dans les attentats de 95-96, qui sont en réaction à la position, au refus de la France, de l'État français, de laisser passer par le territoire des idées, des mouvements, des fonds, des armes. Il y avait aussi des plans, effectivement, trop sophistiqués, mais il y avait quelque chose, c'était de ne pas permettre à la mouvance terroriste algérienne de s'implanter sur le territoire français. Donc, une fois de plus, vous voyez, contexte différent dans la mesure où c'est ça qui génère. Ensuite, il y a effectivement... Alors, on a vu en Angleterre, mais c'est moins fréquent, mais un phénomène qui a eu beaucoup, beaucoup d'impact, qui a été l'affaire de Bosnie, et qui a quand même été très fondateur, où on a eu... je vous prends, il y a eu un certain nombre de... Et c'est intéressant parce qu'on compare avec la Syrie, on voit que c'est pas nouveau. C'est-à-dire l'attrait que peuvent avoir des jeunes gens, et on peut les comprendre, par rapport à la situation d'oppression, d'attaque sur la communauté musulmane, ce rôle central, et effectivement, les gens qui vont faire du travail humanitaire et qui vont aller au Bosnie, qui vont revenir... Mais il se trouve que parmi ces groupes-là, il y en a un qu'on appelle le gang de Roubaix, qui sera quand même un groupe très qui va se manifester. Et là, on a vraiment, pour la première fois, du moins mais on a la première fois la preuve de ce qu'on n'avait pas vu ailleurs, c'est la proximité du banditisme, du milieu du banditisme, avec celui du djihadisme. Ça, c'est une nouveauté. Et là, je vois, parce qu'aujourd'hui, on dit, ah ben, les djihadistes, vous avez, c'est nouveau, on a un phénomène, on a des gens qui sont issus des partis populaires, de quartiers de rélégation. Bon. Mais on a des gens qui sont issus des classes moyennes. On avait déjà ça. Il se trouve que Lionel Dumont, qui a été un étudiant en médecine, était parti en Bosnie et il était devenu un djihadiste redoutable. Et d'ailleurs, il va s'insérer complètement dans un réseau international, puisque quand il va être arrêté, bon, il y a toute une épopée autour de l'affaire de gang de Roubaix, le chef qui s'appelle Lionel Dumont va s'enfuir, il sera presque 4-5 ans avant d'être arrêté, si vous souvenez son nom, et il va trouver à se réfugier jusqu'en Indonésie. Donc, vous voyez qu'il rentre dans un contexte international et c'est quand même intéressant. Et bon, il va être rattrapé et il a été arrêté. Mais vous voyez que quand même, pourquoi je dis que c'est important, les attentats, les arrestations d'un certain nombre de gens, c'est le fondement vraiment de tout un geste, je m'excuse, là, c'est le mot est peut-être pas très indiqué, mais toute une histoire, de tout un récit. Des islamistes, des djihadistes ou des radicaux français. Et c'est vrai que des personnages comme Jamel Begal, hein, qui est quand même celui qui a été inspirateur indirect, Jamel Begal, c'est le produit direct de le contexte algérien des années 95-96. Des gens comme Koulibaly a été arrêté parce qu'il a été mêlé à un moment donné à une tentative d'évasion de Haït Belkacem. Le cas d'Haït Belkacem était quand même dans le un peu lié au gang de Roubaix. Vous voyez, donc les liens, vous pouvez les trouver, vous pouvez les lier. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tous ces gens-là sont liés finalement beaucoup plus par un contexte vraiment terroriste et l'élément, doctrinal de type salafiste, il n'est pas encore vraiment évident dans les années 90. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire dans les années 90 qu'on parle de Moussaoui, le 20e homme du 11 septembre, celui qui n'était pas dans les avions. On ne dit pas c'est un salafiste ou c'est quelqu'un qui a été inspiré par la mouvance salafiste. Mais on sait que c'est un djihadiste dans ce sens-là, mais pas forcément. Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui, on soit dans ce cadre où on a effectivement un contexte beaucoup moins clair par rapport à des gens qui sont d'inspiration, si vous voulez, salafiste, donc une conviction religieuse, je veux dire, un peu plus épaisse, à peine plus épaisse, parce que juste une parenthèse, là, je me repose sur ce que dit dans les constatations de Farhad Khosrowshahr dans les études qu'il a fait en prison. Il a constaté quand même que, quand les gens arrivaient, étaient arrêtés pour fait de djihadisme et qu'ils étaient mis en prison, ce qui était intéressant, c'est que au fur et à mesure qu'ils commençaient à s'intéresser vraiment à la religion et essayer d'étudier des textes, systématiquement, ça les éloignait du djihadisme. Bon, je mets pas en cause ces paroles, mais il dit que c'est assez intéressant de voir quand même qu'il y a un lien de cause à effet entre, si vous voulez, l'intérêt vraiment renforcé par rapport par rapport aux textes sacrés, à leur étude, et par rapport à l'action armée. C'est vrai qu'on a ce constat qu'on a dans les prisons françaises. Bon, c'est quand même tout à fait intéressant. Alors, vous allez me dire, mais ça n'explique pas encore. Par rapport aux Anglais qui partent en Syrie, par exemple, alors on a effectivement un contexte politique français. Bon, il faut pas se cacher, qui est déterminant. C'est alors là, je marche sur des œufs, qui est le sentiment très profond d'islamophobie, de sentiment d'agression qu'ont les musulmans en France. Alors, qui est je crois qu'il faut le reconnaître, qui est très, très habilement exploité par tout un réseau de gens, etc., mais qui joue un rôle déterminant par rapport alors, en régimentement, en brigadement, je ne sais pas quel mot on peut employer, mais qui joue un rôle déterminant par rapport à la discrimination. Il y a quelque chose autour de l'antisémitisme, par exemple, que vous n'avez pas en Angleterre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'antisémitisme, loin de là. Il y a une extrême droite très forte en Angleterre, hein, qui, effectivement, ne date pas d'aujourd'hui, mais qui, effectivement, est dans son champ propre et ne forçait pas, n'a pas encore transpiré à tel point que, alors qu'en France, c'est une histoire différente. Et c'est vrai que de l'antisémitisme. Ensuite, alors, qui est très lié à l'antisémitisme, c'est le complotisme. Effectivement. Alors ça, ce sont des éléments nouveaux, si vous voulez, qui, par rapport à des jeunes Français, hein, qui sont susceptibles d'être attirés par une aventure, malheureusement en France, on l'a vu récemment, mais aussi à l'étranger, il y a le complotisme, il y a ce sentiment profond d'islamophobie qui est très habilement exploité par des recruteurs. Ça, il faut le dire, c'est... Bon, et après, c'est une chose. Et ça, ce sont des choses, vous voyez, quand on est dans le contexte des années 90, à la limite des années 2000, parce qu'il a été évoqué, comment il s'appelle, le cas de l'agent des Buttes-Chaumont, ce qu'on appelle le gang des Buttes-Chaumont, où on est encore dans un réseau international. On est encore dans un réseau. On n'a pas une autonomie des acteurs, hein, qui sont les frères Kouachi, par exemple, à l'époque, qui ne sont pas en autonomie. C'est-à-dire qui n'ont pas constitué un groupe autonome pour effectuer des attentats en France. Ils sont encore reliés. Ils ne peuvent faire des choses que par rapport à un contexte international. D'ailleurs, les seuls faits qu'on connaît, c'est qu'en 2011-2012, ils vont en Yémen. Effectivement, ils sont encore liés. Et après, c'est vrai que ceux qui, en France, accomplissent, par exemple, des actes, des radicaux qui appuient des actes, c'est Nemouche ou Mera, on est effectivement sur des initiatives. Enfin, avant Nemouche et Mera, on en parle peu, mais les vrais initiateurs, malheureusement, c'est ce qu'on appelé la bande de Torcy Cannes. Ce sont des gens qui étaient entre Torcy, la ville de Torcy, la ville de Cannes, qui avaient constitué des groupes, qui étaient en majorité des convertis d'origine, me semble-t-il, de Guadeloupe, Martinique. Voilà. Et puis, oui, c'est ça. Il y avait un Africain qui était à Cannes, c'est d'origine africaine, mais chrétien converti. Et on est en présence là du premier phénomène. Alors, là, la vraie question, on n'est plus du tout dans des mouvements traçables, hein, par le salafisme et autres, on est dans ce fameux phénomène d'autoradicalisation, etc. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans le débat. Peut-être y aura-t-il des questions là-dessus. Mais si vous voulez, une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, par rapport à ce radicalisme, le littéralisme, l'élément religieux, bon, il n'a pas été forcément nourri par une école et ensuite systématisé, et ça n'a pas conduit, si vous voulez, à un acte précis, parce qu'il y a quelque chose, alors c'est ça qui nous fait peur, c'est un peu comme l'acte qui a été accompli par le jeune Algérien Glam, là, récemment, avec l'ordre qui lui avait été donné de tirer au sortir de la messe dans deux églises, c'est qu'on est en présence de gens dont l'élément religieux, hein, l'islam, enfin, je ne dis pas qu'il est absent, hein, attention, mais effectivement, ce n'est pas le facteur déterminant. Alors je me dis, mais quel est l'élément qui est déterminant? C'est pour ça que je vous dis que, il me semble-t-il, hein, l'élément le sentiment de victimisation, le sentiment induit à un sentiment de complotisme, ça joue un effet mais gigantesque. Bon, après, il y a le salafisme, effectivement, conçu comme une continuité théorique bien précise avec ça existe, ce qu'on appelle les salafistes quiétistes, qui sont des salafistes qui sont pas du tout djihadistes, pas du tout violents. On le sait, ce sont des gens qui sont très rigoristes, qui sont, bon, qu'on peut, si ça fait plaisir à certains ou certaines, assimiler à une secte. Encore que, mais bon, moi je ne suis pas trop d'accord, mais en fait, il y en a certains qui estiment qu'on peut le comparer à une secte, hein, mais par rapport à les autres, cette autre construction, dans cette construction, si vous voulez, c'est l'enfermement. C'est-à-dire, on est en présence de la constitution, d'abord de ces griefs qui ont été accumulés, ensuite on a la constitution d'un monde clos. C'est des gens qui appartiennent à un monde clos. Au départ de ce monde, c'est quoi? C'est, si vous voulez, un univers nourri par Internet et par les images, c'est un univers qui est effectivement est centré sur la grandeur de l'islam. Qui a, bon, ça, c'est toujours exploité, mais là, exploité à un degré qu'on ne connaissait pas avant sur la geste du prophète. Hein, et c'est-à-dire, bon, effectivement, c'est l'élément fondateur qui est le plus important. Donc tout ce qui se raccroche à cette époque, et il faut bien comprendre que tout ce qui a été au-delà des 200 premières années, globalement, hein, de l'islam, n'a aucune valeur. Donc, si vous voulez, c'est un univers de bataille, de gloire, hein, et de contraintes, et de qui est puisé dans le texte sacré, et puisé dans le salafisme, c'est-à-dire l'ordre halal, haram, c'est-à-dire le permis et l'interdit. Bon, voilà, c'est une chose. Et ce monde clos, c'est le monde du début. Et puis, il y a un monde de la fin. Il n'y a pas entre les deux de monde qui est défini. Le monde de la fin, c'est l'apocalypse. Et alors, c'est très intéressant parce que l'univers apocalyptique joue une importance déterminante. On l'a vu, on l'a étudié sur les départs. Ce monde apocalyptique, bon, qui est présent comme dans les autres religions, l'univers de l'apocalypse est déterminant. Et ce monde apocalyptique, il est aussi nourri d'images. On parlait d'Abiq, qui est le nom de Daesh, que Daesh a utilisé pour sa revue. D'Abiq, ça appartient à la mythologie apocalyptique. Hein, enfin, la mythologie, au mythe apocalyptique. C'est-à-dire, Dabek, c'est une ville qui est à la frontière syro-turque, où effectivement il y a eu une bataille. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette bataille? Eh bien, cette bataille, les Mamelouks, pour la première fois, ont été défaits par les Ottomans, si je me souviens bien. Et donc, c'est-à-dire que. Non, excusez-moi. Dans la GSR, c'est une histoire qu'on raconte à Dabiq qui va y avoir une bataille à la fin du monde au cours desquelles les musulmans vont se venger des Romains, c'est-à-dire les Byzantins, tout simplement, à l'époque. Mais aujourd'hui, on le transforme en disant, vous voyez, c'est le moment où l'armée du prophète qui va revenir sur Terre va se venger. Donc, vous voyez, au début, il y a une histoire créatrice, et puis la fin, c'est celle qui, effectivement, va clôturer un cycle. Et avec des images, avec des vidéos puissantes, etc. Et c'est assez curieux parce que là, c'est une chose, je pointe par rapport à ce que disait sur quand même le sophistication, théologique peut-être un peu plus sophistiquée. En France, vous avez un homme qui est à Nice, qui est un ancien truand, qui a fait 4 petits films, il l'appelait 19HH. Et alors, c'est assez curieux parce qu'il a fait de 4 petits films qui sont, je ne vais pas vous les décrire, mais en gros, qui sont tout à fait illustrateurs ou explicatifs de la situation actuelle qu'on vit. Et dans ces 4 petits films, en fait, il démontre, il a effectivement une présentation très, très artistique de ces deux périodes que je vous ai parlé et sont au centre de son discours. Et au centre de son discours, c'est la déconsidération systématique. Il y a un autre, parmi ces quatre films, il y en a un qui est la déconsidération systématique de tout ce qui est non-djihadiste. Alors, c'est très intéressant parce que sa cible la plus importante, vous savez, c'est qui c'est, alors, bien sûr, il dit pique-pendre sur Tariq Ramadan, sur les frères musulmans, sur les institutionnels, sur les religions, enfin sur les institutions musulmanes en France. Bon, ça c'est normal, mais sa cible la plus favorite, c'est un imam salafiste, donc salafiste quiétiste. Donc il sort bien que ça c'est l'ennemi, c'est le vrai ennemi, c'est celui qui est salafiste, mais qui convainc les gens qu'il ne faut pas faire le djihad, que ce n'est pas la période. D'abord, que la fin du monde n'est pas forcément immédiate, et qu'en même temps, on peut. Alors, c'est terrible, parce que ce salafiste est vilipendé même par toute la mouvance salafiste, autre qu'il ne reproche. Il n'est pas tout seul, cet homme-là. C'est un imam qui est en reste. Il le reproche de commencer à vouloir composer avec la société. Alors, c'est tout à fait intéressant, parce que comment dire ? On sent qu'il faut absolument détacher les gens de leur situation, leur faire comprendre que la solution, ce qu'on appelle voilà le bara, c'est-à-dire l'alliance ou le désaveu. C'est-à-dire, ou vous êtes dans l'alliance avec les autres musulmans du monde entier, ou vous désavouez les autres. Alors, je sais que la formule paraît unitaire, c'est le bien ou le mal, mais ça a une force terrible par rapport aux gens qu'on essaye de convaincre de partir. Donc, vous voyez que là, on est dans une logique, ce qu'on disait par rapport à l'Angleterre. Je ne dis pas que ce n'est pas le même schéma qu'on peut retrouver par rapport à des jeunes qui sont partis ou des jeunes moins jeunes qui partent d'Angleterre ou d'Allemagne. Hein. On a aussi le même scénario qui se déroule. Mais en France, c'est intéressant de voir que, par exemple, le discours qu'on essaie d'avoir pour essayer de voir comment ces jeunes les convaincre de ne pas partir en Syrie, par exemple, que le discours religieux, bon, tout a été essayé, tout a été... visiblement, je ne dis pas que ça ne marche pas, mais qu'il faut les amener à accepter un discours religieux de ceux qui savent, c'est quand même assez compliqué. Bon, voilà. Maintenant, je ne sais pas si les différences entre la France et l'Angleterre sont ressorties de mes propos, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, nous avons en France une situation tout à fait originale par rapport à l'Angleterre et par rapport au reste de l'Europe aussi, je pense. Voilà.